difficile.
Il est 17h, on se retrouve avec Alexis Goyer pour les nouvelles locales et régionales de CAGA-FM. Cap sur l'avenir pour Jeunesse sans frontières, VG, après une année décisive.
La semaine dernière, Jeunesse sans frontières, Vallée de la Gatineau, tenait son Assemblée générale annuelle à Gracefield. Un rendez-vous important qui a permis de faire le point sur une année qualifiée de charnière et déterminante pour l'organisme, très actif auprès des jeunes de la région. Devant les membres réunis, l'organisation a présenté son rapport annuel 2025-2026, ainsi que son bilan financier, mettant en lumière les nombreuses activités, projets et initiatives menées au cours de la dernière année. De plus, étant membre du regroupement des maisons de jeunes du Québec, des élections d'administrateurs jeunesse ont eu lieu. Selon la chef d'équipe Chantal Laviolette, la mission de l'organisme demeure tout aussi essentielle, particulièrement en raison du manque de lieux de rassemblement destiné à cette clientèle.
On est un milieu qui est vraiment inclusif dans le non-jugement. Les gens pensent qu'on est là juste pour avoir du fun, mais beaucoup d'interventions en dessous de ça. Là, on le sait, là, depuis quelques années, nos jeunes, ils n'allent pas bien. Donc, notre mission qui est un peu cachée par l'amusement, c'est l'intervention. Donc, ça devient de plus en plus essentiel.
Madame Laviolette indique que l'organisme compte 3 maisons de jeunes dans la région et précise que plusieurs membres du personnel possèdent des formations spécialisées, ce qui permet de mieux répondre aux besoins de clientèle vivant avec des enjeux de santé mentale.
Une maison de jeunes à Maniwaki, il y a une maison de jeunes à Venosta, différents secteurs, différents jeunes. Pour le 12 à 17 ans, on est 2 intervenantes de terrain. Moi, j'ai une formation en dépendance, donc je peux accompagner les jeunes qui ont des problèmes de consommation. On est aussi formés pour évaluer le suicidaire chez les ados. D'autres formations en santé mentale ou le spectre de l'autisme.
Plusieurs moments marquants ont aussi ponctué la rencontre, notamment la remise des prix Chloé Jeté-Franceur, qui souligne l'implication de jeunes âgés de 8 à 17 ans, ainsi que la reconnaissance de bénévoles et de partenaires engagés.
On a aussi la fête du village de Montcerf-Layton qui approche à grands pas.
Montcerf-Layton organise vendredi, samedi, dimanche prochain sa fête au village. C'est la première fois qu'elle sera organisée en juillet sur une durée de 3 jours. Dans les années précédentes, elle durait une journée et se déroulait en septembre. Selon les explications du maire Pierre Côté, c'est le nouveau comité événementiel qui a pris cette décision.
À chaque année, il y a une fête pour le village. Dans les années passées, c'était plus en septembre, je crois. Là. Cette année, on a un nouveau comité événementiel. Eux ont préféré le faire en début juillet pour rassembler le maximum de personnes.
De nombreuses activités sont au programme, dont une parade aux flambeaux en kayak et canot le vendredi soir pour lancer les festivités, ainsi qu'une soirée karaoké. Le samedi se tiendra notamment un rallye automobile, une visite de la caserne des pompiers et une démonstration de leur part, ainsi qu'une compétition d'hommes forts. Un spectacle musical du groupe Les Bohémiens clôturera la soirée. Pour le dimanche, les plus jeunes pourront aller découvrir les petits animaux qui seront présents au Parc des enfants. Une cantine et un bar seront disponibles durant les festivités et la municipalité invite les agriculteurs locaux qui sont intéressés à venir présenter et vendre leurs produits. Selon M. Côté, ce genre d'événement est positif pour les citoyens, surtout après l'impact qu'a eu la pandémie sur eux.
C'est vraiment, vraiment positif. À partir de la campagne électorale, où ce qu'on a vu, qu'on a senti que le COVID avait laissé des traces, si on veut, puis pas juste point de vue maladie, là, mais point de vue humain. Fait que nous, depuis un bon bout, là, les éclaireurs font un travail, ils rassemblent, les joyeux copains aussi brisent l'isolement. La communauté est active chez nous. Fait qu'on a senti qu'on avait encore un besoin d'aller un peu plus loin.
Le financement de cet événement a été fait notamment grâce à une loterie et des tirages.
Et pour terminer, on parle du sous-financement en santé, la SOS Outaouais qui salue un progrès mais qui réclame des actions.
Le sous-financement santé et services sociaux en Outaouais recule légèrement, passant de 349 millions à près de 272 millions de dollars, selon les plus récentes données de l'Observatoire du développement de l'Outaouais. SOS Outaouais parle d'un progrès encourageant et d'une petite victoire pour la région après plusieurs années de mobilisation. Toutefois, l'écart demeure important et continue d'avoir des impacts bien concrets sur la population, notamment sur l'accès aux soins, les délais d'attente, la pression sur les équipes et la dépendance envers l'Ontario pour certains services, comme l'explique le porte-parole de la coalition, Jean Pigeon.
faut reconnaître que le portrait change, mais on va continuer au niveau de la coalition de se battre là, pour que notre financement soit plus équitable pour la région. Ce qu'on demande d'ici le 15 septembre, ça va être en campagne électorale. Là, on cherche à avoir des engagements clairs et précis et mesurables pour la région de l'Outaouais.
SOS Outaouais s'inquiète également du nouveau modèle de financement de Santé Québec qui tient compte de la performance des établissements. Selon elle, cette approche pourrait désavantager l'Outaouais, déjà en manque de personnel, et freiner le rattrapage. M. Pigeon prévient qu'un recours juridique pourrait être envisagé dès l'automne si aucune réponse concrète n'est apportée.
Soit envisageable dès l'automne au niveau de se baser sur le respect de la loi 15, que Santé Québec a une responsabilité essentiellement de répartir les ressources en tenant compte des besoins de la population dans l'ensemble des régions socio-sanitaires de la province. Il n'y a pas de procédures qui ont été déposées. Il y a des avocats et une firme juridique qui ont travaillé de pair avec la coalition SOS Outaouais dans le but de faire cette analyse.
En conclusion, SOS Outaouais rappelle que malgré cette amélioration, l'Outaouais demeure en situation de désavantage et insiste sur la nécessité d'un plan de rattrapage concret, sans quoi des recours pourraient être envisagés dès l'automne.